C'est une histoire de géopolitique.
C'est le géopolitique.
C'est une histoire de géopolitique.
C'est le géopolitique. C'est le
géopolitique. C'est une histoire de 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 géopolitique. En 2020, The Guardian annonçait 6500 morts sur les chantiers qataris de la Coupe du Monde de football. 8 mois plus tard, l'Organisation Internationale du Travail en annonce 50. Alors chez le géopolitique, soit on devient complètement parano, soit on peut se poser une vraie question. Est-ce que l'OIT est sous emprise qatari? La réponse, vous la voyez venir, c'est oui. On vous explique tout ça, comment l'une des plus grandes organisations mondiales a pu tomber sous le joug d'un État sans que personne, mais alors vraiment personne ne branche. Bienvenue dans le géopolitique, préparez-vous à mieux comprendre le monde qui vous entoure. You say you wanna be a star. But
the city is so dense and low. Il y a eu la Qatargate et la déclaration de l'ex-vice-présidente grecque « Le Qatar est un leader en matière de droit du travail ». Il fallait du cran pour prononcer ces mots devant le Parlement européen, ou une belle liasse de billets. En tout cas pour nous, c'est l'illustration d'une très grande influence qatari. Mais au-delà de la corruption, le petit émirat a des pratiques légales, le lobbying, qui sont d'une grande habileté.
Alors comment on s'y prend pour faire chavirer l'OIT? Il y a plusieurs manières. La première d'entre elles, eh bien, c'est tout simplement d'influencer des réunions sous le nez de syndicats. La diplomatie qatarienne envahit les bureaux de l'OIT aux États-Unis, au travers du monde. Les sources sont disponibles en description. Et puis ensuite, le Qatar peut faire le choix de couper les médias internationaux. En 2014, il y a des ingérences médiatiques qui commencent à faire parler sur le non-respect des droits de l'homme au Qatar. À ce moment-là, donc, le Qatar rentre dans une politique largement protectionniste sur le plan médiatique. Ensuite, eh bien, le Qatar va complètement simuler une commission d'enquête en lien avec l'OIT. Nous sommes alors en 2017 et c'est là encore The Guardian qui relance l'enquête. Mais le Qatar va aller encore plus loin et va signer un accord de coopération technique. C'est le point culminant d'une coopération malhonnête avec l'OIT. Cette coopération technique, eh bien, elle dit plusieurs choses assez intéressantes. L'OIT va notamment s'installer à Doha, en plein milieu du petit émirat, et c'est le Qatar qui va financer la construction de ses bureaux. En fait, l'OIT va être largement financé par le Qatar. Une seule chose ne sera pas financée, le salaire du responsable de l'agence qatarienne de l'OIT, tout simplement parce qu'il fallait réussir à falsifier les documents. En réalité, l'OIT devient donc une arrière-cour qatari au fur et à mesure. De 2014 à 2017, tous les documents et tous les financements seront sous emprise qatari. À partir de 2018, on commence à avoir un changement. Effectivement, l'émirat est de plus en plus médiatisé à l'approche de la Coupe du Monde de football. Tout ne pourra pas réussir à être caché, puisque comme vous l'a dit Manon, on va arriver peu à peu jusqu'à la Qatargate en 2023.
Le Qatar a du souffle et l'OIT ne manque pas d'air. L'émirat finance les publications et les bureaux de l'organisation à Doha en 2018 pour une enveloppe de 25 millions d'euros. Pour éviter de se faire avoir, seul le salaire du chef de publication sera pris en compte par l'OIT. Néanmoins, il y a une contrepartie. Le Qatar doit abandonner son kafala, un processus par lequel un travailleur est lié à son employeur, quoi qu'il arrive ou presque. Restreindre les heures de travail lors des moments les plus chauds de l'année et mettre en place un salaire minimum de 494 dollars. En 2020, Human Rights Watch s'exprime. Dans les faits, le système perdure, avance Rotna Begum, responsable de l'affaire pour l'ONG aux États-Unis. Pour éviter que les magouilles ne se remarquent de trop, l'OIT elle-même agit, et Marc Thunon, le responsable de l'agence de Doha, fait de son bureau une salle de presse à l'approche de la Coupe du Monde de 2022. Le Qatar peut alors fièrement se défendre. L'OIT est une agence indépendante qui a un point de vue neutre sur la situation de nos chantiers, explique Siem Souy, la chargée des relations de presse de l'ambassade du Qatar en France. Non, il ne manque pas d'air, on vous avait prévenu.
À tel point que le 3 novembre 2022, la vice-présidente tournante de la Conférence internationale du travail, qui chapeaute les travaux de l'OIT, a été attribuée au ministre qatarien du travail, Khalid bin Sami Kalmari. Ce monsieur, je vous invite à rechercher son nom sur internet. Et voici ce qui s'affichera sur votre navigateur. Khalid bin Sami Kalmari, né le 30 novembre 1972, est un homme politique et expert en matière des droits humains qatari. Il exerce les fonctions de ministre du Travail du Qatar depuis le 19 octobre 2021 et est reconduit par décret en mars 2023. Alors, l'avantage, c'est que cela doit être relativement facile d'être expert des droits humains qatari. Il n'y en a pas beaucoup à apprendre, on sera d'accord là-dessus. En 2023, dans l'affaire du Qatargate, de nombreux pays demandent son arrestation, la Belgique en premier lieu, elles seront toutes levées, comme par magie, les sources encore une fois sont à description. En tout cas, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que ce monsieur ne soit pas accusé de corruption alors que les membres européens, eux, ont dû démissionner tour à tour. Antoine, je m'approche de toi à présent. On va discuter ensemble de l'OTAN, une alliance internationale qui a un poids important avec les différents événements qui se passent en ce moment dans le monde.
De l'Adriatique à la Méditerranée, de la Bosnie-Herzégovine à la Libye, de la guerre froide à la guerre en Ukraine, l'OTAN, organisation de l'Atlantique Nord, a été un acteur majeur de la géopolitique mondiale et ce depuis sa création. Elle est aujourd'hui, comme l'ensemble des organisations, remise en cause, bousculée et obligée de se réinventer, de se remettre en ordre de bataille face à un monde qui mute et qui semble, à plusieurs endroits, marcher vers la guerre. Mais bien au-delà de l'image que l'on peut avoir de l'OTAN, une force offensive et militaire, bien au-delà des canons donc, l'OTAN est aussi une symphonie de coopération internationale qui promeut le dialogue. L'OTAN, c'est un peu une alliance aux mille visages, et parce que tous ces visages ne vous sont et ne me sont pas forcément bien connus, plongeons donc dans l'univers complexe de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, autant des tensions glaciales à la coopération chaudement contestée. C'est maintenant, c'est parti.
Bienvenue dans Hard Power, une chronique du géopolitique qui analyse les enjeux de défense et de sécurité à l'international. Antoine vous accompagne au cœur de la géopolitique mondiale avec sérieux et légèreté.
C'est parti à toute vitesse, on va ralentir un petit peu. Transforme-toi en historien et raconte-moi l'histoire de l'OTAN, Antoine, s'il te plaît.
L'OTAN est né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une période marquée par la montée des tensions entre ce que nous avons coutume de nommer un bloc Est, né par l'URSS, et puis un bloc Ouest, avec à sa tête les États-Unis d'Amérique. Les pays occidentaux, préoccupés par l'expansionnisme soviétique, ont cherché une alliance pour garantir leur sécurité collective. C'est ainsi que le 4 avril 1949, le traité de l'Atlantique Nord a été signé à Washington, établissant ainsi l'OTAN, certes créé dans un contexte de guerre froide, pour faire face au communisme alors puissant. L'OTAN était alors un contrepoids à la menace perçue de l'Union soviétique. Les Européens avaient peur de ce péril rouge. Il est néanmoins à noter que cette alliance a perduré au-delà de la chute de l'URSS en 1991, alors que son objectif était atteint. Elle s'est alors depuis réinventée et s'est imposée dans le domaine de la sécurité collective mondiale.
Et de nos jours, à quoi sert l'OTAN exactement ?
Les objectifs fondamentaux de l'OTAN incluent la défense collective, la dissuasion et la promotion de la stabilité. Toute attaque contre l'un des membres est considérée comme une attaque contre tous, engageant ainsi la solidarité militaire. Ce principe, il est central. Comme je viens de vous le dire, avec la fin de la guerre froide, l'OTAN a dû redéfinir son rôle. Elle a élargi son plan d'action en intégrant de nouveaux membres d'Europe de l'Est et en se transformant en une alliance politique et militaire s'impliquant dans des opérations de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme. L'OTAN n'est pas une alliance offensive. Elle repose bien d'un côté sur des moyens politiques en s'efforçant de promouvoir les valeurs démocratiques, en résolvant les problèmes en amont afin d'éviter de prévenir à tout prix la guerre, en instaurant un climat de confiance, et puis d'un autre côté, elle dispose bien entendu de moyens militaires afin de pouvoir entreprendre des opérations de gestion de crise, voire même de contre-attaquer ou d'attaquer si ses intérêts sont en danger. L'OTAN, elle est ainsi souvent qualifiée comme une organisation politico-militaire. Enfin, c'est bien une alliance qui a pour vocation première de créer des liens transatlantiques entre les pays d'Europe et d'Amérique du Nord afin de faciliter la coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense, coopération gage de stabilité.
Du concret maintenant, est-ce qu'on peut avoir des exemples d'opérations de l'OTAN ces dernières années ?
L'OTAN a été impliquée dans diverses opérations, notamment en Bosnie-Herzégovine. Ça sera d'ailleurs sa toute première grande opération de gestion de crise en 1995, mais elle est aussi intervenue au Kosovo. En revanche, le premier déclenchement de l'article 5 survient tardivement puisqu'il faut attendre les attentats du 11 septembre 2001 pour que l'OTAN invoque pour la première fois cet article. Enfin, dernier exemple que je peux vous citer, c'est la prise du commandement de la Force internationale d'assistance à la sécurité, FIAS, par l'OTAN en Afghanistan, en 2003, toujours dans un objectif de lutte contre le terrorisme. Ces engagements, ils ont été cruciaux pour la sécurité régionale et mondiale, mais ont également soulevé des questions quant à la légitimité et l'efficacité de certaines interventions.
Est-ce qu'il est possible d'avoir des élargissements de l'organisation transatlantique Nord ou non ?
L'OTAN, c'est aujourd'hui 31 membres, regroupant les États-Unis et le Canada, et puis pour le reste, presque l'ensemble des pays, ce sont ceux du continent européen, avec bien sûr la France, l'Allemagne, mais aussi la Turquie ou la Roumanie.
En effet, ces derniers temps, la question de l'élargissement est revenue au cœur des débats. Le dernier pays à avoir intégré l'OTAN, c'est la Finlande au mois de novembre 2023 et se pose désormais la question de l'entrée de la Suède. La Suède est toute proche de rejoindre l'OTAN, mais Viktor Orban puis le Turc Erdogan ont tout fait pour ralentir le processus d'entrée. Pour qu'un membre puisse faire son entrée au sein de cette alliance, il faut effectivement une ratification de l'ensemble des 31 membres. La Turquie a finalement ratifié et donc accordé son feu vert pour une entrée de la Suède dans l'OTAN, mais le leader hongrois, lui, continue de faire tendre ses partenaires et a même boycotté une session plénière ces derniers jours. Ce qu'il faut comprendre avec ces deux leaders, c'est que tous deux ont un lien plus ou moins prononcé avec le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, lui qui considère ces extensions successives comme des agressions de la part des Occidentaux. Nous connaissons désormais sa rhétorique. Il va même jusqu'à parler d'ambition impériale de l'OTAN. On comprend donc ce jeu international qui se met en place, ce jeu d'alliance, avec d'un côté des Occidentaux qui veulent que l'OTAN reste attractive et même influente, voire hégémonique pour reprendre les mots du leader russe, et puis de l'autre des leaders qui jouent le double jeu, puis Poutine qui lui n'hésite pas à dire que l'élargissement à la Suède et à la Finlande ne lui pose pas de problème, tant que c'est pas l'Ukraine, mais dans un même temps affirme qu'il mettra les moyens si jamais la provocation venait à s'intensifier. On est bien clairement dans ce jeu des puissances.
L'organisation a donc de nombreux défis en face d'elle. Le défi Poutine, t'en as parlé en premier lieu, certainement.
L'OTAN fait face à des défis complexes, notamment les divergences entre ses membres, les questions budgétaires et les nouvelles menaces telles que la cybercriminalité et les attaques hybrides. Les différentes approches face à la Russie, bien sûr, la question des dépenses militaires et la redéfinition du rôle de l'OTAN dans un monde multipolaire sont autant de défis à surmonter. Mais l'un de ces défis les plus importants, c'est bien entendu le retour de la guerre haute intensité à la frontière de cette alliance. En effet, le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne le 24 février 2022 lui rappelle que l'OTAN a encore sûrement un rôle à jouer. Le 1er avril 2022, quelques semaines après l'invasion russe en Ukraine, dans un entretien au Figaro, Jean-Yves Le Drian, alors ministre des Affaires étrangères, estimait que, je cite, « la guerre a réveillé l'OTAN. Il y a quelques mois, l'OTAN s'interrogeait sur son propre devenir. Aujourd'hui, elle revient à ce qui fut son fondement, la défense collective de l'espace euro-atlantique. Cela fait beaucoup. En un mois, on assiste à une forme de basculement de l'histoire dont la crise ukrainienne a été le vecteur. » Dans le même registre, le 28 avril 2022, selon Jens Stoltenberg, l'OTAN et ses alliés se préparent à fournir un soutien sur une longue période et à aider l'Ukraine à passer des vieux équipements de l'ère soviétique à des armes et des systèmes modernes. Nous le comprenons, l'OTAN s'est remise en ordre de marche. Pour ce faire, elle veut faire de l'année 2024 une année d'entraînement et d'exercice. Pour l'OTAN, 2024 sera en effet l'année de Steadfast Defender, le plus important exercice militaire jamais organisé sur le sol européen depuis 40 ans. L'Ukraine est brutalement venue rappeler aux Européens qu'un conflit avec la Russie est possible et qu'il s'agit même d'un scénario crédible d'ici 5 à 8 ans, a déclaré il y a quelques jours Boris Pistorius, ministre allemand de la Défense. L'OTAN montre donc ses muscles avec cet exercice militaire. Le nom de cet exercice veut littéralement dire « défenseur inébranlable ». Il s'agit bien sûr de préparer une attaque sur le front oriental de l'Union européenne et de voir comment les forces sur le terrain et les unités de commandement se coordonnent et coopèrent dans un conflit de haute intensité. Cet exercice réunira notamment 90 000 soldats, 80 avions ou encore 1100 engins de combat. Plusieurs objectifs sont visés, réviser les gammes et la capacité de projection de l'OTAN, mettre en place une logistique hors norme et à grande échelle, et puis également, il s'agit bien sûr d'une guerre de communication et de montrer à Poutine que si lui le renoue avec la Grande Russie, l'OTAN combattra comme face à l'URSS. L'OTAN a donc parcouru un long chemin depuis sa création, s'adaptant aux changements géopolitiques tout en maintenant sa mission principale de défense collective, son rôle dans le monde actuel continue d'évoluer. Confronté à des défis complexes qui nécessitent une coopération étroite entre ses membres. L'avenir de l'OTAN dépendra de sa capacité à rester agile dans un monde en constante mutation. L'OTAN demeure une pierre angulaire de la sécurité collective en Europe et en Amérique du Nord. Cependant, si cette coopération doit être renforcée lors de la réalisation de cet exercice Steadfast Defender, il n'en demeure pas moins qu'un certain candidat aux élections présidentielles américaines, Donald Trump bien sûr, a montré quelques réticences à continuer de financer autant cette alliance. Mais l'OTAN sans les États-Unis, c'est comme la SDN sans les Américains, c'est voué à l'échec. Comme pouvait le dire François Mitterrand,
« La guerre, ce n'est pas seulement le passé, cela peut être notre avenir !»
L'OTAN, par sa longévité, sa puissance et son expérience, doit donc assurer et rassurer dans un contexte d'exacerbation des tensions. Plusieurs questions demeurent cependant. la légitimité et la domination américaine au sein de cette alliance. Certes, comme le dit Joe Biden, l'OTAN, c'est un serment sacré. Oui, mais pour combien de temps ?
Merci Antoine. À la semaine prochaine pour Hard Power, disponible tous les jeudis, maintenant, en exclusivité. On va passer à la suite. Manon, c'est à toi.
Pour comprendre la diplomatie qatari, il faut d'abord étudier le pays ainsi que ses atouts. Le pays est en effet le premier pays exportateur de GNL au monde, ex aequo avec l'Australie, avec des ressources extrêmement conséquentes, se situant notamment dans le champ offshore North Field. Du côté de la diplomatie, on a une montée en puissance du pays ces dernières années, avec des alliés un peu partout sur la planète, alliance bien sûr facilitée par les ressources du pays. On peut notamment citer l'obtention du statut attribué en 2022 par les États-Unis d'allié majeur hors OTAN pour le Qatar, avec la plus grande base militaire états-unienne se situant au Moyen-Orient présente au Qatar. On a également un rayonnement dans les domaines sportifs, et ceux de la médiation, mais en vérité, comment le Qatar en est-il arrivé là? C'est ce que nous allons voir.
Pascal Boniface soulignait que le sport rend la puissance sympathique et populaire. L'étalage de la puissance militaire fait peur, elle peut provoquer le rejet, pas la victoire d'un sportif. Et pour cause, il a des propriétés fortes que sont celles de rassembler et de créer des émotions, des appartenances communes. Le sport comme instrument de soft power, c'est-à-dire pouvoir doux, ce n'est pas nouveau. Plusieurs exemples en sont témoins, comme celui de la diplomatie du ping-pong. Néanmoins, le Qatar s'en sert de manière non pas admirable, mais très habile. Et cela lui procure un rayonnement international certain. Nous allons étudier cela, dans le cas du Qatar, au travers de l'article « La diplomatie sportive, enjeu stratégique pour le Qatar » de la revue Hermès, écrit par Thierry Comme et Michel Raspo, disponible sur Cairn. Nous l'avons dit, le sport comme instrument de pouvoir n'est pas nouveau. Et surtout, pas au Qatar. Jeux asiatiques de 2006, Jeux panarabes de 2011, Championnat du monde de handball en 2015, Mondiaux d'athlétisme en 2019, et bien sûr, comment l'oublier, la Coupe du monde de football en 2022. On regrette encore le coup de pied de Kolo Muani. Nous en reparlerons. Cela permet, d'une part, de faire lumière sur un pays assez peu connu depuis sa prise d'indépendance en 1971, mais il permet, d'autre part, de donner une bonne image du pays auprès des populations étrangères. On a une autre preuve de cela avec l'investissement du Qatar dans les clubs professionnels, par exemple avec le football, et la prise de contrôle de clubs comme celui de Malaga au sud de l'Espagne, ou bien évidemment du PSG. On veut bien sûr au travers des valeurs du sport que sont le respect, l'équité et la justice donner une image positive au pays, mais ces valeurs nobles du sport, lorsqu'il s'agit du Qatar, rentrent en opposition avec les réalités sociales du pays, et notamment avec les nombreux travailleurs d'origine étrangère qui sont exploités sur les différents chantiers. Le message est brouillé, car le droit du travail, le droit des femmes, l'équité, la justice ou encore les libertés sont encore anecdotiques.
Mais finalement, quel est le véritable but ? Certes, la vitrine présentée est celle du sport, mais si l'on prend l'exemple de la Coupe du Monde de 2022, les résultats sportifs ne sont pas au rendez-vous, mais les objectifs diplomatiques et financiers, eux, le sont. Comme le dit Ala Kodmani, dans un article du journal Libération du 19 décembre 2022, l'équipe du Qatar n'a certes pas dépassé les phases de poule de la Coupe du Monde, mais sa diplomatie est, elle, allée jusqu'en finale. En effet, si l'on jette un œil aux retombées qu'a engendré cette Coupe du Monde, on se rend rapidement compte que c'est un excellent investissement de la part du Qatar, qui semble avoir fait carton plein. On a de nombreux contrats qui ont été signés au cours de l'événement, de par notamment le déplacement de personnalités politiques de première importance. C'est ainsi qu'on a pu observer la signature d'un contrat d'armement $1 milliard portant sur de l'équipement militaire quelques jours après le déplacement du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, accompagné d'élus du Congrès. Contrat signé pour répondre à des objectifs de politique étrangère et de défense nationale américains en améliorant la sécurité d'un allié clé au Moyen-Orient, selon le département d'État états-unien. On a également d'autres pays qui ont profité de la fenêtre de tir pour s'assurer de leur approvisionnement en hydrocarbures, à l'image de la Suisse ou encore de l'Allemagne, qui s'est assurée d'un approvisionnement en GNL pour 15 ans. Néanmoins, le grand gagnant des enchères semble être la Chine, qui elle a négocié un contrat de 25 ans d'approvisionnement en GNL de la part du Qatar. Cela signifie que chaque année, le Qatar exportera 4 millions de tonnes de GNL à des entreprises chinoises d'hydrocarbures. Voilà ce qui, au-delà de la diplomatie du sport, s'apparente à de la diplomatie de gaz dollar, et il semblerait alors que les 220 milliards engagés pour la construction des infrastructures nécessaires au mondial soient alors parfaitement rentabilisés.
Des retombées, il y en a d'autres, et elles sont notamment diplomatiques, puisqu'en ce qui concerne la France, on a vu Emmanuel Macron faire deux allers-retours au Qatar. Beaucoup de dirigeants internationaux se sont rendus sur place, notamment en ce qui concerne les pays voisins. C'est le cas de ceux de la Jordanie, avec le roi Abdallah, les présidents d'Égypte, d'Algérie, de Turquie, du Rwanda ou encore du Sénégal, d'Arabie Saoudite, qui étaient tous sur place. On a pu alors observer le pouvoir diplomatique du Qatar avec le serrage de main historique entre les dirigeants égyptiens et turcs, Al-Sisi et Erdogan. On a aussi pu voir les relations entre le Qatar et ses voisins se réchauffer après l'embargo contre le Qatar de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et du Bahreïn entre 2017 et 2021.
On voit donc que ce fut pour le Qatar une occasion exceptionnelle de conforter sa position et son dynamisme diplomatique tout azimut, comme le dit une fois encore Ala Khodmani. Cela loin des scandales qui ont éclaté en défaveur du Qatar avec l'affaire notamment de corruption au Parlement européen, les conditions de travail dans lesquelles ont été réalisées les infrastructures de la compétition, les droits humains bafoués ou encore les désastres environnementaux que cela a engendrés. On voit malgré tout que le Qatar joue un rôle diplomatique important dans plusieurs dossiers brûlants comme la Palestine, l'Afghanistan ou encore l'Ukraine. On avait pu voir Doha accueillir les discussions de la communauté internationale avec les talibans en 2022 ou en 2023, ou encore avec la contribution majeure du pays dans les opérations d'évacuation. Plus récemment, on voit le Qatar s'imposer en acteur clé dans la médiation dans la guerre entre Israël et le Hamas.
On a cité le nom d'Anthony Blinken, la rédaction du Géopolitique ne peut vous conseiller qu'une lecture dans ce cas-là. Le magazine Time, le 22 janvier, a sorti un numéro spécial sur Anthony Blinken, justement. Sa lecture en est très informative d'un regard extérieur.
C'en est donc fini pour la diplomatie qatari, et maintenant, Lamia, je viens vers toi pour ta chronique comme d'habitude, la grande réorientation. La semaine dernière, tu nous as introduit aux différentes guerres du Liban, mais tu t'es arrêté dans la chronologie et nous sommes à présent en 1982. Quel événement décisif s'y passe ?
Effectivement, moi je me suis arrêtée en 1982, puisque on a donc un événement décisif maintenant qui va voir le jour, ce qu'on va essayer de voir maintenant. Petit rappel, la guerre, elle est en marche depuis 1975. On a plusieurs forces sur le territoire. On a eu la force syrienne qui a intervenu pour défendre ses intérêts, notamment face à la force palestinienne. On a toujours le camp palestinien progressiste. On a également les chrétiens, les phalangistes. Mais la guerre se pérennise. Certains y voient même une amorce de la paix. On a un retour de certains exilés. Mais ce qu'il se passe, c'est qu'en 1982, c'est que Israël va envahir le sud du Liban. Alors, quel est le but d'Israël? En fait, il est assez évident, hein, c'est que, vous l'avez dit, mais on a eu des accords politiques qui ont été menés entre les forces libanaises et les forces palestiniennes, qui font qu'on a une très large implantation de l'OLP, l'Organisation de la Libération de la Palestine, sur le territoire libanais, et donc l'objectif d'Israël, c'est quoi? C'est de démanteler ces structures. Et donc là, vous imaginez bien, c'est le début donc d'une guerre totale. L'armée israélienne est engagée dans ce qu'ils appelaient l'opération paix en Galilée. Évidemment, l'armée israélienne défait très rapidement l'armée syrienne. Hein, on avait dit qu'elle avait changé de camp à partir d'un certain moment. Et puis, ils atteignent Beyrouth. Ils sont également appuyés par les forces libanaises et ils entament un siège sur la partie ouest de la ville. La résistance donc du camp palestino-progressiste va durer près de 2 mois et demi jusqu'à la conclusion d'un accord sous la houlette américaine.
Et quels impacts sur les civils ?
Oui, tu fais bien de demander ça, puisque on a deux massacres majeurs, hein, qui sont les massacres de Sabra et Shatila, qui auront lieu donc le 21 août. Ce qui se passe, c'est que face à la progression d'Israël, on a le retrait des troupes de l'OLP qui va se faire via des navires français à la suite d'accords qui vont être mis en place. Et donc, en parallèle de ça, on aura la volonté de mettre Bachir Gemayel, qui est donc soutenu par le gouvernement israélien, à la tête du Liban. Son parti politique, c'est donc un parti politique chrétien d'extrême droite, hostile à la cause palestinienne. Et ce qu'il va se passer, c'est qu'il ne pourra jamais devenir président puisqu'il va être assassiné. Son soutien principal, c'était donc les chrétiens et notamment une branche très radicale de ces chrétiens déjà d'extrême droite, qui sont donc les phalangistes, qui, dirigés par Eli Obeika, vont se venger de cet assassinat sur des civils palestiniens qui avaient été laissés en retrait sur le territoire libanais alors que l'armée, les forces palestino-progressistes avaient déjà été évacuées. Selon les estimations, les massacres vont faire 800 à 3500 victimes, majoritairement des femmes et des enfants. Et ce qui va affoler une partie de la communauté internationale, c'est que ces massacres vont se dérouler sous les yeux des commandants israéliens avertis que s'ils n'intervenaient pas pour stopper ces massacres, les phalangistes allaient mettre à feu et à sang ces deux camps. Je vous passe les détails des conflits, puisqu'il va y en avoir encore suivants, mais qui vont finalement déboucher sur les accords de Taif. L'OLP va donc définitivement quitter le Liban, et on va assister à une démilitarisation de toutes les milices, exception faite du Hezbollah. J'aimerais bien juste vous parler concernant les camps de Sabra et Shatila d'un film d'animation réalisé par Harry Folman qui s'appelle Vals avec Bachir et en fait qui relate le point de vue d'un soldat israélien qui va petit à petit en fait faire tout un parcours dans sa mémoire puisqu'il va devenir amnésique face aux horreurs qu'il va vivre pendant cette opération Paix en Galilée et au fur et à mesure du film d'animation il va en fait redécouvrir toutes les horreurs de cette guerre et c'est très bien fait, je vous le conseille. Donc, je reprends donc sur le Hezbollah qui va être une milice sur laquelle on va revenir plus tard avec Manon. Pour résumer ce conflit, donc c'est 15 ans d'affrontement entre des forces internes du pays qui vont aboutir quand même à une réforme du système politique. Vous le savez, le Liban a un système politique confessionnel avec des religions attribuées à chaque poste politique majeur, mais qui aura coûté donc au pays de Cèdre 150 000 morts, des déplacés et puis des dégâts économiques évalués à 30 milliards de dollars, en sachant que cet événement donc, qui s'est arrêté en 2000 par le retrait des forces israéliennes du territoire libanais a toujours des impacts sur la crise économique que connaît actuellement le Liban.
Mais alors, quelles sont les conséquences géopolitiques de cette invasion ?
Les conséquences géopolitiques, elles sont nombreuses, mais moi je vais m'attarder sur un point en particulier qui est le Hezbollah. Je vous ai expliqué que la plupart des branches militaires, elles avaient été démilitarisées. Le Hezbollah, aujourd'hui, on en a des représentations assez floues. On entend parler du Hezbollah quand on parle de la guerre en Syrie, également un acteur au sein du conflit israélo-palestinien. En réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Hezbollah, son objectif est apparu donc pendant l'occupation israélienne du sud Liban. Le Hezbollah, littéralement, ça veut dire le parti de Dieu en arabe. C'est un parti à majorité chiite qui est une des branches de l'islam. Et il va d'abord se développer en tant que parti de la résistance, hein, donc traduction en arabe que je ne ferai pas, mais en tant qu'acteur militaire au sein donc d'un conflit politique. Et son objectif, c'est de faire barrage à l'occupation israélienne du sud du Liban. Et donc on a voilà, la création de ce parti qui se qualifie de résistance. Vous savez que la différence entre la résistance et le terrorisme, c'est tout un débat. En tout cas, leur propre qualification de leur parti, c'est donc un parti de la résistance. À partir de là, on a le développement de ce qu'on appelle des bulles associatives qui vont mener petit à petit à l'institutionnalisation de ce parti militaire en un parti politique. Un des événements majeurs dans l'histoire du Hezbollah, ça a été le soutien qui va lui être accordé par l'Iran, évidemment l'Iran post-révolution de 79. En 89, donc, certains hauts dignitaires du Hezbollah vont aller plaider leur cause aux voisins iraniens et l'Iran va donc accorder des aides économiques et surtout au niveau de la fourniture d'armes aux groupes terroristes du Hezbollah. Alors l'enjeu pour l'Iran, c'est dans sa communication, c'est par soutien aux frères chiites. En réalité, soutenir le Hezbollah, c'est un levier idéologique dans cette région très conflictogène. Et donc à partir de là, on a la généralisation de détournements d'actions, de bombes, d'attentats, etc. Donc tout ça pendant l'occupation militaire d'Israël depuis 1982 et jusqu'en 2000 au sud du Liban. Et cette frange armée est dite terroriste, elle est considérée comme terroriste par l'Union européenne. Par exemple, et en 2000 on aura le retrait des troupes israéliennes du sud du Liban, et c'est une victoire idéologique que le Hezbollah va s'attribuer complètement, ce qui va permettre en fait de légitimer son contrôle sur une partie du territoire libanais. Aujourd'hui le Hezbollah il contrôle ce qu'on appelle la plaine du Bekaa, une partie de Beyrouth, et il est également présent évidemment dans le sud du Liban au niveau de la frontière avec Israël. Même si Israël a donc quitté le Liban, on a eu des attentats par exemple en 2006 pour ne citer que, même s'il y en a eu énormément d'autres, des roquettes qui sont envoyées sur le nord d'Israël et l'enlèvement de deux otages en Israël, et puis la riposte d'Israël, évidemment, qui a fait 2000 morts. C'est ce qu'on appelle une armée de terroria aujourd'hui, et ce qui est important, c'est de noter que cette armée de terroria, cette branche militaire du Hezbollah, elle est à distinguer du parti politique du Hezbollah, qui lui n'est pas considéré comme un parti politique terroriste pour l'Union européenne, mais qui a une fonction politique très importante au Liban. En fait, c'est ce qu'on appelle un état dans l'état. On a des députés, on a des ministres du Hezbollah. Aujourd'hui, le Hezbollah a 12 sièges au Parlement libanais sur 92, c'est donc considérable, et c'est une force politique qui est néanmoins accusée de népotisme. Alors le népotisme, c'est le fait, comme Napoléon, de placer des membres de sa famille ou alors ses proches au pouvoir, même s'ils n'ont pas de réelles compétences. Et cette critique très vive du Hezbollah, même si elle ne se fait jamais de manière ouverte, hein, puisque vous imaginez bien que c'est difficile de parler ouvertement face à une force politique aussi répressive, on peut se le dire, une force politique d'ailleurs antisémite et islamiste, cette critique, elle se joint à la crise politique et financière majeure que vit le Liban, en fait, et qui n'a pas vraiment connu d'interruption depuis le retrait des troupes israéliennes en 2000.
Eh bien merci Lamia, je pense que de par sa chronique on a une image beaucoup plus claire non seulement du Hezbollah mais aussi de l'histoire récente du Liban. Donc on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle chronique La Grande Réorientation. Et c'est la fin de cet épisode, on se retrouve comme je l'ai dit la semaine prochaine. Restez connectés et prenez soin de vous.
Alors ça, c'est quand même un corps, c'est comme un soldat sans armes finalement pour ma chronique. Hein.